Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Sous le feu turc au nord de la Syrie, les forces kurdes appellent les États-Unis à assumer leurs responsabilités morales, correspondance d'Aden Lauer. Reportage à Paris lors d'une des manifestations de soutien au peuple kurde organisées en France. Extinction Rebellion fait escale sur le pont de la Concorde devant l'Assemblée nationale dans le cadre de sa semaine mondiale de désobéissance civile. À Rouen, 2000 personnes refusent de se contenter des affichages politiques et autres informations lacunaires divulguées par la puissance publique 2 semaines après l'incendie de l'entreprise Lubrizol. Les forces démocratiques syriennes, dont les unités de protection du peuple sont le fer de lance, font face à une attaque massive des troupes turques à Ras Ain, presque entièrement désertée par ses habitants. Combat au sol, les effectifs turcs, appuyés par de l'artillerie lourde, ont pour objectif de gagner le cœur de cette localité où le commandement kurde a positionné quantité de tireurs embusqués. Depuis le début de l'assaut, mercredi, 74 combattants kurdes et 30 civils ont été tués, selon un dernier bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. 100 000 personnes déplacées, selon les Nations Unies. Les autorités turques n'ont évidemment pas les mêmes données. À chaque conflit, sa guerre des communiqués. Anden Lauer nous appelle d'Istanbul.
Difficile de savoir réellement ce qui se passe sur les lignes de front multiples de cette offensive turque. La situation change très vite et chaque camp mène une guerre de l'information et de la désinformation. Après des percées dans les zones rurales ces derniers jours, à la faveur d'intenses bombardements, l'armée turque a annoncé la prise d'un poste frontière à hauteur de Ras Alayn et surtout la conquête du centre de cette ville. Peu de temps après, pourtant, les combattants kurdes niaient la chute de Ras Alayn. L'Observatoire syrien des droits de l'homme rapporte pour sa part que les forces turques sont entrées, mais que les combats se poursuivent. Du côté de Tal Abyad, l'armée turque a progressé jusqu'à la route M4. C'est l'un des objectifs de cette première étape de l'opération turque. En prendre le contrôle reviendrait à couper une voie logistique essentielle entre les villes kurdes de Kobané et Asaké. Les rebelles syriens soutenus par Ankara ont revendiqué la prise de la route, mais là encore, les milices kurdes ont affirmé avoir repoussé l'offensive. Quoi qu'il en soit, cette avancée signifie que les forces turques ont pénétré jusqu'à 25 à 30 km en territoire syrien, soit à peu près la profondeur de la zone de sécurité voulu par Ankara. Ni les condamnations de la communauté internationale, ni les menaces de sanctions américaines, ni les tirs de roquettes et d'obus de mortier sur les villes turques frontalières, qui ont tué au moins 17 civils, ne font fléchir le président turc. Recep Tayyip Erdogan s'est engagé dans une bataille qu'il planifie depuis des mois et il fera tout pour la mener à terme.
Cette offensive provoque l'indignation des représentants de la communauté kurde en exil. Manifestation de soutien à Berlin, à Strasbourg, Marseille, Tours, Montbéliard, mais aussi à Paris. Bonsoir Nabila Hamel.
Bonsoir.
Nabila, vous étiez vous, place de la République.
Oui, plusieurs emblèmes kurdes, des drapeaux frappés du sigle des forces YPG, des portraits du leader du PKK emprisonné au Tchalan, des chants kurdes. Place de la République, jeunes, moins jeunes, femmes, ils étaient surtout là pour exprimer leur colère face à l'actuelle offensive turque et aussi écouter ce jeune manifestant, leur incompréhension face à la frilosité des grandes puissances.
C'est pas normal ce qui se passe. On a défendu le monde pendant des années contre l'État islamique, contre Daesh. Et au jour d'aujourd'hui, le monde, Trump, se retourne contre nous. On espère que l'Europe, les États-Unis vont se bouger et vont arrêter ces bombardements.
Mais aux yeux de ce jeune kurde, seules des sanctions contre la Turquie peuvent faire bouger les choses.
Il faut boycotter, il faut arrêter de vendre des armes à ces pays-là. On a vu que certains pays ont commencé à le faire, comme la Finlande, la Norvège. Donc c'est comme ça que ça marchera. Il faut boycotter le tourisme, il faut boycotter ces pays-là.
Réagir et réagir vite, car pour la militante kurde Berivan, il y va aussi de la sécurité du monde occidental.
Il faut se dire qu'il y a plus de 12 000 Daeshiens radicalisés. On ne parle pas des familles, des femmes qui sont détenues par les forces kurdes. C'est pour cela que l'invasion d'Erdogan sur le Rojava, sur le nord de la Syrie, représente aussi un danger pour monsieur et madame tout le monde ici en France, partout en Occident.
Se sentir solidaire des Kurdes, c'est le message d'Alexis Corbière de la France Insoumise présent dans la manifestation.
On a une dette aussi vis-à-vis de ces combattants kurdes, on le sait. Et on voit aujourd'hui une diplomatie turque folle, soutenue avec l'ambiguïté qu'on connaît, mais par Trump. Il faut que ce drame cesse. Voilà, on est tous aujourd'hui kurdes pour dire l'abomination de cette invasion militaire de la part de la Turquie doit cesser.
En plus de la colère, c'est un sentiment de forte injustice que j'ai ressenti chez les manifestants kurdes, place de la République.
Merci à vous, Nabil Amel. L'Allemagne interdit l'exportation d'armes vers la Turquie. Hier, les Pays-Bas ont suspendu toute transaction de la sorte avec Ankara. Il est 18h05, vous écoutez le journal de France Culture. À Amsterdam, à Londres, des arrestations par dizaines de militants de l'organisation écologiste Extinction Rebellion appliquée à nourrir d'actions millimétrées une semaine mondiale de désobéissance civile et d'alerter ainsi contre l'inaction climatique des gouvernants. À Paris, Extinction Rebellion a investi le pont qui mène à l'Assemblée nationale. Bonsoir Cédric Hermel.
Bonsoir Mathieu.
Vous avez suivi Cédric cette mobilisation qui va forcément les conduire ailleurs, toujours avec pour ancienne la non-violence.
Il l'assure, ce sera donc la non-violence, quoi qu'il arrive. C'est la ligne directrice d'Extinction Rebellion qui a bloqué les deux entrées de l'Assemblée nationale. Début à 9h devant les grilles, face au pont de la Concorde à Paris, avant une intervention musclée des CRS quelques minutes plus tard.
Attention !
Le but, de toute façon, c'est d'essayer de se faire entendre. Or, comme une simple manifestation ne sert à rien, aujourd'hui, on n'a plus d'autre choix que de faire des blocages, même si on ne veut pas embêter les citoyens, clairement. Et puis, de toute façon, c'est des petits blocages qu'on fait. Donc, vraiment, c'est pas ça qui embête tellement les gens, je pense pas. Ok, c'est bien beau de signer l'état d'urgence climatique, mais du coup, derrière, il faut être en cohérence avec ça.
Aux côtés d'Anne-Laure, 51 ans, plusieurs jeunes CC ont des alternatives au blocage. Certains parcourent le pont et taquent des animaux en voie de disparition sur les trottoirs. Une autre manière pour déclencher une prise de conscience pour Héloïse, 21 ans.
Il y a des personnes qui seront plus sensibles à un beau pochage dans la rue et c'est pour montrer qu'on ne s'occupe pas que de bloquer des ponts pour bloquer la circulation. Derrière tout ça, il y a quand même un message contre l'écocide et qui dénonce toutes ces extinctions de masse et l'impact que l'homme a directement dessus, quoi. On s'est dit que ça serait chouette de faire ce qu'on sait faire, mais de porter un message un peu différent.
Tous sur le pont se sont vus attribuer un rôle précis, ça fait partie de la stratégie d'Extinction Rebellion. Soit ils font partie du sit-in, soit ils filment, soit ils rejoignent le pont plus tard, mais ignorent combien de temps ils vont y rester. En cas de départ, plusieurs membres du collectif assurent que d'autres rassemblements sont prévus à Paris tout ce week-end.
Merci à vous Cédric Hermel. La vérité sur la catastrophe de l'incendie de Lubrizol il y a deux semaines. Ils étaient 2000 cet après-midi dans les rues de Rouen. L'appel d'associations, de syndicats et de partis politiques a demandé enfin la transparence requise sur les risques encourus par les habitants de la zone impactée par les fumées toxiques. Atmosphère de défiance incarnée par cette manifestante Catherine au micro de Théophile Petrola.
On n'est pas rassuré du tout. On n'a pas fait d'examen sur nos enfants des écoles. Je suis vraiment affolée.
Il y a aussi des conférences de presse de la préfecture qui étaient quasi quotidiennes. Mais pour vous, ça ne change rien.
Ça voulait dire dormez bien, dormez sur vos deux oreilles. Non, ça ne me convient pas. Je veux entendre que des crédits seront débloqués pour soigner les gens qui vont être malades dans les années à venir. Je ne sais pas ce que Lubrizol va faire, s'il va prendre ses responsabilités d'habitant de la Terre ou s'il va se laver les mains de toute cette histoire-là. Je pense qu'il va falloir vraiment être derrière eux. Et qui peut être derrière eux? Normalement, ça devrait être nous gouvernants. J'aimerais que l'État s'occupe de faire prendre ses responsabilités à Lubrizol et surtout qu'on prévoie les futurs malades. C'est ça mon souci, parce que plein d'enfants vont peut-être même pas avoir de vie. Ça me rassure pas.
L'arrestation à Glasgow d'un homme présenté comme Xavier Dupont de Ligonnès, puis blanchi par un test ADN, n'est qu'une fausse piste de plus dans la traque de ce père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants à Nantes en 2011 et qui a mystérieusement disparu. Qui, pour remplacer Laurent Wauquiez à la tête des Républicains, plus de quatre mois après la défaite des Européennes, le parti vote pour choisir son successeur. Trois candidats pour un poste, Christian Jacob, le président du groupe des députés LR à l'Assemblée nationale, Julien Aubert, député du Vaucluse, et Guillaume Larrivé, député de Lyonne. Campagne discrète, scrutin marqué par l'absence de candidature de ténor du parti. Difficile dans ces conditions de mobiliser les électeurs, selon Stéphane Rosès, politologue et enseignant à Sciences Po.
La charte de principe qui a été adoptée a mobilisé plusieurs milliers de militants du Parti Républicain, mais au fond, ce sera le noyau dur qui va sans doute aller voter ce week-end et le week-end d'après pour le second tour. Au fond, c'est véritablement des sympathisants qui se mobiliseront. D'autant qu'en général, la culture du peuple de droite, c'est de penser que spontanément, un chef doit se dégager. c'est beaucoup moins l'idée que, au fond, comme à gauche, c'est du vote des militants que devrait procéder le chef. Ces deux raisons font que c'est essentiellement le noyau dur du Parti républicain qui aura voté, soit quelques milliers, voire dizaines de milliers de militants.
Des propos recueillis par Maïwenn Bordron. Le temps de demain dimanche pour la France métropolitaine. Plusieurs régions seront encore sous les nuages et les averses, notamment le nord-ouest. Température douce pour la saison. Cette édition a été préparée avec Caroline Beneteau, à la technique, Pierrick Monsigny.